Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Bonjour tout le monde. Bienvenue à l'émission À nous le futur. Nous sommes à l'Université de Sherbrooke à la radio CFAK, CFAK, et plus précisément à nous le futur. Mon nom est Claude Saint-Jean. Je vous souhaite la bienvenue. Et puis, ce matin à mon temps, ma compagne qui m'accompagnait m'a monté le ciel avec les très beaux nuages. Regardez les très beaux nuages qui sont en forme de vagues, qui virevoltent. Fait que là, l'autre jour, j'ai fait deux entrevues avec le professeur Cornette. J'en ai diffusé une. Et puis la deuxième, finalement, c'était la première qui a été rediffusée. Mais aujourd'hui, c'est vraiment la deuxième qui est censée être là, là. Et on va l'entendre. C'est le professeur Normand Cornette qui a développé une nouvelle pédagogie qui s'appelle la dialogique, au sujet de laquelle je l'ai interviewé dans la première rencontre. Et la deuxième, c'est lui-même qui souhaitait qu'il y ait plus de débats. Fait que moi, comme intervieweur, je me définis pas comme un débatteur, mais j'ai néanmoins parlé de débats avec lui, là. Alors, j'ai un article dans la presse du 22 mars 2010 qui s'intitule « Le professeur Cornette et la fosse au lion », C-O-R-N-E-T-T. Et puis, Alanis Obem-Sawin, la cinéaste, a fait un film à son propos. Et le film s'intitule « Le professeur Normand Cornette, deux points, ouvre les guillemets. Depuis quand différencie-t-on la bonne réponse d'une réponse honnête? Point d'interrogation, fermez les guillemets. » C'était à l'ONF en 2009 que ça a été fait. Maintenant, c'est sous-titré en français et c'est disponible dans Internet. Alors, sans plus tarder, je vous fais entendre cette entrevue et je vous reviens après pour des petites nouvelles locales et régionales. Professeur Cornette, j'espère que ça va passer une bonne nuit. je suis content d'être avec vous. Et puis,
c'est réciproque. Merci, Saint-Jean.
Aujourd'hui, ce sera entre 20 et 40 minutes, là, en tout cas. Et puis, hier soir, j'ai eu un courriel de vous me disant « Monsieur Saint-Jean, demain, je vous invite à me poser d'autres questions afin d'assurer qu'on ne se répète pas. À mon humble avis, la raison d'être d'une telle entrevue, c'est de favoriser un débat d'idées. Qu'en pensez-vous? » Alors là, j'avais à peu près 25 questions. J'ai réduit à deux parce que vous dites que ça ne se répète pas. Et puis là, je me suis mis à penser à des débats d'idées. Puis j'en ai trouvé à peu près 21 depuis hier soir. Là. Donc, on va peut-être parler de ça. Puis je ne suis pas un débatteur, je suis un intervieweur pour le moment. Fait que, en tout cas, parler des débats, c'est déjà débattre. Fait que, cependant, pour commencer, j'aurais deux questions, là. Vous avez dit qu'il y a une science de l'interprétation. Alors, en musique, j'ai pas de misère à comprendre ça. J'ai déjà appris le piano. Je peux comprendre qu'on peut interpréter de façon différente. Mais en science ou en religion ou en littérature, de quel auteur vous vous inspirez pour dire qu'il y a une science de l'interprétation?
Alors, quand on fait le doctorat en sciences des religions, normalement, parmi les doctorants, doctorantes, on assiste à un atelier dans l'herméneutique. L'herméneutique, c'est la science de l'interprétation, et pour cause, puisqu'il s'agit des textes sacrés. Que le texte sacré soit la Torah, en judaïsme, dont vous pourriez lire littéralement des milliards de commentaires sur la Torah, que le texte soit le Coran, dont il y a encore des milliards de commentaires sur le Coran, et c'est aussi vrai du Nouveau Testament, donc les Écritures saintes du christianisme. Et ce qui est très intéressant dans le cas spécifiquement du judaïsme et de l'islam, c'est que ces deux religions mondiales, monothéistes, ont toute une dimension légale de droit. Donc, il y a le droit coranique, mais il y a aussi le droit chez les juifs, qui est dans les deux cas, c'est très prononcé. Or, tout comme à la Cour suprême du Canada ou la Cour supérieure du Québec, tout est sujet à l'interprétation. Et c'est la même chose avec les textes sacrés. Voilà une des raisons que vous avez. Et parlons du christianisme, on n'a qu'à penser au droit canonique dans le catholicisme. Alors, voyez-vous, et pour moi, c'est très, très intéressant dans le cas du judaïsme et de l'islam, ce sont ce que j'appelle des religions nomistiques. Mm-hmm. Nomistique, nomos, c'est le mot grec pour la loi. Or, ça, c'est très important. Ce n'est pas une question, comme on peut lire dans le Nouveau Testament chrétien, on parle beaucoup de l'amour. Or, dans les textes judaïques et les textes coraniques, il est surtout question de la loi, la loi divine. Donc, tout ça, c'est sujet à un débat d'idées, ce qui explique pourquoi il y a tellement d'écoles, d'interprétations différentes, que ce soit chez les musulmans, que ce soit chez les juifs, et encore chez les chrétiens, n'est-ce pas? Puisqu'on parle du catholicisme romain, mais il y a les orthodoxes, il y a les protestants, il y a les évangéliques. Tout ça, la plaque tournante, c'est l'herméneutique, c'est l'interprétation. Et c'est une des raisons que le philosophe français Merleau-Ponty met important, parce qu'il disait « chaque perception est une interprétation ».
D'accord. Il disait, je pense, la profondeur, c'est la largeur vue d'un autre point de vue.
Oui.
Wow. Est-ce que vous avez enseigné la dialogique dans un milieu non urbain?
Tout à fait. J'enseigne également sur les réserves des Premières Nations.
Mais excusez-moi, je voulais dire accepter les réserves, parce que c'est artificiel, de mon point de vue, là.
D'accord. Mais j'enseigne, oui. J'enseigne, et d'ailleurs, lundi prochain, je suis avec un groupe communautaire. Beaucoup sont des aînés. Mm-hmm. Alors, ce qui m'intrigue, c'est de voir, et je le fais dans les musées, dans les maisons de culture, dans les centres d'art, dans les cégeps. Donc, ce qui est merveilleux avec cette approche dialogique, c'est qu'elle s'adapte, elle s'accommode aux personnes, aux participantes et participants, peu importe leur éducation, l'arrière-plan, leur discipline et leur âge. Et c'est très intéressant aussi de le faire avec des gens dont la langue maternelle n'est ni le français ni l'anglais.
Oui.
Parce que je favorise surtout que ce soit une expression, comment dirais-je, sur le jet,
oui,
instantané, intuitif, et sans se préoccuper de l'épellation, sans se préoccuper de la grammaire, sans se préoccuper de la syntaxe. Donc, syntaxe, c'est la structure des phrases, des langues. Or, quand on enlève ces barrières, on laisse libre cours à l'imagination, à l'expression créative et à la pensée créative. Et qu'on soit avec les Premières Nations à Musquashish, à 90 km au sud d'Edmonton, comme j'en ai fait, qu'on soit... moi, j'étais en Algérie aussi. Alors, il y a une dimension universelle à cette approche dialogique, et pour cause, parce que foncièrement, elle est transdisciplinaire. Elle dépasse les bornes. Mm-hmm. C'est même sa raison d'être.
D'accord. Dans les sciences religieuses, vous avez certainement travaillé la question du divin et de l'absolu. Dans les Premières Nations, est-ce qu'il y a un équivalent? Sûrement que oui, là, mais qui ne s'appelle pas divin ou absolu.
Je dois vous dire, dans un premier temps, l'absolu, c'est une quête, c'est un idéal, c'est une utopie, mais dont la pratique est chargée d'implications parfois catastrophiques. Parce que quand on dit que la vérité, avec V majuscule, elle est une, elle est singulière, elle est noir et blanc, vrai et faux, eh bien là, la marge de manœuvre, la marge de l'interprétation, elle n'y est pas. Or, quand on voit les mouvements des fondamentalistes, que ces fondamentalistes soient juifs comme les colons en Cisjordanie, que ces fondamentalistes soient islamiques comme Hamas ou encore l'État islamique. Et là, c'est sous la prétention qu'on possède l'absolu. Je crois, nous, les êtres humains, on doit se méfier d'ériger en ultimatum l'absolu.
OK. Ouais. Merci. Et ça me fait aller sur une autre question que je n'avais pas prévue. C'est le chanoine Lionel Groulx, vous l'avez étudié pendant 10 ans, vous avez dit. D'accord. Et puis, vous avez écrit un chapitre que j'ai lu. Le chanoine disait que les Québécois devraient éviter de se lancer dans des questions charnelles pour être différents du reste de l'Amérique. Mais la page suivante, il dit que tout est sacré. Alors, à ma surprise, je ne crois pas que chez lui, la chair est sacrée. Est-ce que vous avez perçu ça chez lui? Puis c'est en même temps un débat.
Dans la pensée de Lionel Groulx, c'est davantage la question matérialiste. Or, ce qui est fort intéressant chez Lionel Groulx, gardez en tête qu'il est né en 1878, alors que Victoria est non seulement la reine de la Grande-Bretagne, mais elle est l'impératrice de l'Inde. C'est l'apogée de l'impérialisme britannique. Or, Lionel Groulx, le premier quart de sa vie, c'est sous cette égide-là qu'il vit. Mais il ne meurt qu'en 1967. Donc, on est en pleine révolution tranquille. Et c'est ce qu'on appelle au Québec c'est la révolution tranquille, donc la transition du Canada français catholique vers le Québec moderne, séculier, voire laïque. Mais ça correspond à ce qui se passait aux États-Unis. Aux mêmes années, c'était la révolution sexuelle, c'était la révolution des mœurs, c'était les manifestations. Et je parle en connaissance de cause, comme Américain, comme un Texan, et qui un ancien de l'Université de Californie à Berkeley, j'ai vécu ces mouvements-là. Or, il nous incombe de bien situer la révolution tranquille dans le contexte de ce qui se passait dans l'Occident pendant les années 60. Donc, en France, on parle des 68ards, n'est-ce pas?
Oui.
Donc, tout ce contexte-là. Et les derniers livres de Lionel Groulx, en particulier, je souligne « Chemin de l'avenir », publié en 1964, on est en pleine révolution tranquille. Il met le Québec en garde de sombrer dans une société de consommation matérialiste, comme les Américains qui sont les voisins à 2 heures de Montréal. Il dit, si vous croyez que l'argent est une panacée pour l'avenir du Québec, détrompez-vous. L'argent n'est pas la solution à toute la condition humaine, ni la consommation.
Bon, je n'avais pas réalisé que les chemins de l'avenir ont mené à cette émission « À nous le futur ». Et puis...
Ah tiens, quelle belle coïncidence.
Oui, et en m'en venant en autobus ce matin, je ne sais pas pourquoi, mais je pensais à l'île à la tortue. L'île à la tortue, c'est le nom que les Premières Nations donnaient aux trois Amériques qui formaient un tout. Et puis, disons qu'il y a 500 ans, les Européens arrivent sur l'île à la tortue. Et 500 ans plus tard, il n'y a presque plus de Premières Nations et ils sont des réserves. Le contraste me frappe, là. les Premières Nations occupaient l'île à la Tortue, les trois Amériques, et aujourd'hui, elles sont dans les réserves. Alors, je n'ai pas de commentaire, c'est tout simplement pour dire que c'est un débat, c'est un sujet à débat, comme quoi vous...
Mais là, permettez-moi de corriger quelque peu cette optique. Vous avez entièrement raison, M. Saint-Jard, de souligner au point de vue du territoire, évidemment, les agents immobiliers occidentaux, blancs, ont la main mise sur ce qui est les territoires des Premières Nations. Mm-hmm. Mais au point de vue démographique, savez-vous que le taux de natalité le plus haut dans le Québec et dans tout le Canada, ce n'est pas chez les immigrants et immigrantes, c'est chez les Premières Nations. Donc, il y a maintenant, de sorte que vous avez des gens, vous avez la Saskatchewan, où l'année dernière, on m'avait invité à l'université de Regina. Mm-hmm. Figurez-vous qu'il y a plus de gens, de citoyennes et de citoyens d'origine des Premières Nations qu'il y en a des Blancs. Mm-hmm. Mais est-ce que la réalité, l'appareil politique reflète cette réalité démographique? Et c'est ça, cette manque d'équilibre entre une population qui vraiment a beaucoup d'enfants, la jeunesse du Québec, la jeunesse du Canada, c'est pas chez les Blancs, c'est en partie chez les immigrantes et immigrants, mais c'est beaucoup la jeunesse des Premières Nations. Or, là, on devrait corriger le tir, que ce soit au niveau du gouvernement du Québec, que ce soit au niveau du gouvernement fédéral. On doit investir dans la jeunesse des Premières Nations parce que c'est elle qui accuse la plus grande croissance.
Mm-hmm. Très bien. C'est une bonne remarque. Là, nous entrons dans les débats, là. Il y en a quelques-uns qui concernent la démocratie. Et je recevais ce matin un article du professeur Langelier, docteur en droit et sociologue, à propos de le projet de loi 57. Là, je vous lis quelques extraits. Bon, attendez un petit peu. Je suis mieux de ne pas mettre mes lunettes d'abord. Il dit que pour avoir personnellement goûté à la médecine, on va dire antidémocratique, je peux témoigner des ressources dangereuses auxquelles se livrent certains élus qui s'associent toute critique publique à de la diffamation en détournant le sens ordinaire des mots ou en s'en prenant aux inférences allégoriques ou à la verdeur du langage de l'intervenant. C'est-à-dire qu'on peut pas beaucoup critiquer ces temps-ci parce qu'on peut se faire traiter en diffamation. Il dit que la loi risque donc de créer une atmosphère défavorable à tout débat démocratique véritable. Puis il ajoute que à propos des éoliennes, là, dans tout le débat entourant l'implantation de milliers d'éoliennes près des résidences dans la vallée du Saint-Laurent, ce qui a profondément choqué les populations a été sans contredit l'absence de transparence. Donc, c'est une démocratie malade en manque de transparence. Et il dit finalement que les lacunes dans la vie démocratique de nos communautés seraient-elles sans lien avec la radicalisation du discours public? Fait que c'est un peu ça, là, ce que disait...
Et je vous dirais, en résumé, M. Saint-Jard, il y a un malaise dans la démocratie parce qu'il y a ce que j'appelle une cohabitation entre capitalisme et la vision démocratique. Or, quand le capitalisme gère la démocratie, le capitalisme gère cette démocratie dans ses intérêts. Mmh. Et donc, et ce qui me fascine dans l'histoire du Québec contemporain, c'est de voir à quel point le Parti québécois avait commencé avec une vision sociodémocrate, mais qui est devenue de plus en plus une vision bourgeoise, sinon de l'élite.
D'accord.
Mais quand on regarde les racines de cette vision du Parti québécois, vraiment, il y avait un souci d'avoir une égalité, d'avoir des services, que ce soit d'avoir une société. Et d'ailleurs, Vous savez, j'ai eu le privilège de présenter un atelier dialogique avec le premier ministre du Québec, Lucien Bouchard. Mm-hmm. Et ce qui m'avait frappé, il parlait d'un projet de société. Mm-hmm. Mais où actuellement, Monsieur Saint-Jean, y a-t-il un projet de société au Québec? Ou est-ce que c'est surtout, là, on a Northvolt, ou bien on a Boeing, et on a l'idée que les compagnies multinationales, leur intérêt, le capitalisme, c'est ça qui gère la société québécoise.
Oui. Bien, comme réponse, c'est pas un débat, mais je vois le projet de société potentiel dans la non-partisanerie québécoise, c'est-à-dire citoyenneté et démocratie québécoise dans Internet, là, qui veulent que les citoyens écrivent une constitution citoyenne, justement, et pour réformer la démocratie. Fait que les gens pourraient dire exactement ce qu'ils veulent dans une constitution. Il y aurait une constituante tirée au sort qui ferait le tour du Québec pour s'enquérir de ce que les gens veulent. Alors, c'est non-partisan, c'est hors des partis politiques. C'est là un peu que je vois comme un projet de société potentiel.
Mm-hmm. Et il y a un autre malaise au point de vue des partis politiques. Et vous êtes très au courant que les débats actuels qui entourent Québec solidaire, est-ce qu'on va rester en parti qui sur les marges, qui critique des bancs en arrière, ou est-ce qu'on se prépare pour le pouvoir? Mm-hmm. Or, si on veut réaliser un projet de société, il faut avoir une vision plus large que les intérêts capitalistes, et je crois qu'il nous faut renouer avec la vision sociodémocrate qu'avaient les pays scandinaves. Et ce n'est pas pour rien que la Norvège, qui dispose des richesses énormes pétrolières, mais qui investit ses profits, non pas dans la compagnie, mais dans l'éducation, mm-hmm. dans les soins médicaux, pour les aînés. Alors, il nous faut un changement de paradigme politique au Québec. On l'avait dans les origines du Parti québécois. Mais actuellement, qu'en est-il?
Oui. Bon, je vous laisse sur cette question. Je reviens à l'éducation et je reviens à la dialogique, contrairement à ce que j'avais dit avant. Je vais continuer sur les débats tout à l'heure. Est-ce que la dialogique peut être utilisée, ou l'utilisez-vous, pour être appliquée dans l'éducation pour la paix et l'éducation pour la recherche sur la paix?
Oui, oui. Et d'ailleurs, je l'ai fait pendant 37 ans, M. Saint-Jean. Je présente ce que j'appelle des ateliers dialogiques sur les relations israélo-palestiniennes.
OK.
Ce n'est pas un débat facile. J'ai invité le consul général d'Israël, qui est d'ailleurs, on voit dans le film d'Alanis Obomsawin, qu'elle a réalisé à mon sujet.
Oui.
Et on voit également, j'ai invité des imams, j'ai invité des Palestiniennes et Palestiniens, j'ai invité des Égyptiens, et j'en passe. Et je me souviens toujours quand j'ai invité, pourquoi ai-je invité le consul général d'Israël? Parce que dans ce cours-là, j'avais et des Israéliennes et des Palestiniennes. J'ai dit, autrefois, il y a bien longtemps, dans les années 80, il y avait une compagnie de bière que je connaissais pas, parce que je la buvais pas, la BAT. On est 6 millions, il faut se parler. Mm-hmm. Mais vous savez, quand on parle de Palestiniennes et Palestiniens, on est voué à rester côte à côte. On est voué donc à se parler. On ne peut pas se batailler jusqu'à la fin des temps. Oui. Sinon, ça va réellement devenir apocalyptique. Oui. Donc, qu'on le veuille ou non, on est voué au dialogue. Donc, cette approche dialogique s'y prête. Et qu'on se fait-il que pendant... J'ai présenté beaucoup d'ateliers dialogiques avec des artistes, des activistes et des chefs des Premières Nations, parce que je voyais très bien que c'était un dialogue des sourds. Mm-hmm. Mes étudiantes et étudiants qui venaient, la plupart étaient des familles occidentales, d'origine occidentale, et des familles très aisées, et leur réalité était aux antipodes de la réalité des Premières Nations de Montréal, du Québec, du Canada. Donc, je les ai invités, ils sont venus en personne. On s'est assis face à face, en tête à tête. Quelle est votre vision pour le Québec? Quelle est votre vision pour le Canada? Vous qui êtes des Premières Nations. Mm-hmm. Alors, l'approche dialogique, M. Saint-Jean, ne veut pas dire qu'on va être d'accord, mais surtout qu'on sera en face l'un de l'autre, on sera en tête à tête et avant tout à l'écoute de l'autre. C'est la seule et unique façon de démystifier ce qu'on appelle l'altérité.
D'accord.
Cette rencontre humaine, personnelle, individuelle et surtout une rencontre d'écoute de l'autre.
OK. Vous parlez beaucoup, vous avez une admiration pour l'art, mais est-ce que d'après vous, l'art devrait être complété par la politique? Par exemple, dans les conseils municipaux, faudrait qu'il y ait une plus grande participation citoyenne. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Quelque chose qui pourrait compléter la dialogique et l'art, la participation citoyenne dans les conseils municipaux?
Mais un parfait exemple, c'est le Québec, on le divise en MRC. Donc, le MRC qui accuse le plus haut taux de croissance démographique, c'est le MRC Vaudreuil-Soulanges, donc qui est vers l'ouest, à l'ouest, donc pas loin de l'Ontario, mais en pleine croissance. C'est incroyable, quand on va à Vaudreuil-Dorion, on voit des grues partout, ça ne cesse de grandir. Or, croyez-le ou non, le chef de cette MRC m'a invité et on m'a jumelé avec les 27 mairesses et maires des municipalités et on m'a jumelé avec des artistes de chacune de ces villes et on a eu un débat d'idées sur quels sont les rapports entre politique, art, et monsieur et madame tout le monde, les citoyens. Mmh. Et on a gagné le premier prix de l'initiative culturelle au Québec l'année qu'on a présentée.
Ah bon.
Parce que c'était rassembler les effectifs. Non, là, on n'est pas en une chasse gardée. Uniquement pour les initiés, les critiques d'art, les historiens d'art, l'art, c'est avant tout la communication.
D'accord.
Si ça ne communique pas, eh bien, la mission n'est pas accomplie, c'est même raté. Donc, les élus et les artistes et le grand public sont voués à collaborer ensemble.
Oui, mais j'aimerais beaucoup que ces maires et mairesse signent un appui au traité d'interdiction des armes nucléaires. Je vais demander ça là, prochainement au conseil municipal, que ma ville signe un appui à ce traité-là, le TIAN, traité d'interdiction des armes nucléaires. C'est ça, c'est un souhait que j'ai, que l'ensemble des mairesses le fassent et des maires aussi.
Oui, et là, vous avez un défi, non pas à cause des armes nucléaires, mais dans la crise climatique, avec des changements écologiques et le changement de l'environnement, là, on parle de nouveau de l'énergie nucléaire.
Oui.
On va ressusciter l'énergie nucléaire afin d'éviter justement l'énergie pétrochimique.
Mais...
Alors, et l'idée que Hydro-Québec autrefois était très investi dans cela. Est-ce que ça va revenir maintenant face au changement climatique?
Bien, justement, vous touchez à un des débats auxquels j'avais pensé. En fin de semaine, j'ai été scandalisé par un article de La Presse qui s'intitulait « Le salut climatique va passer par le nucléaire selon Ottawa ». Fait que là, je lisais que des mandarins, donc on peut dire que c'est des oligarques politiques actuels, conseillent le conseil de bureau, ou je sais pas trop, là, j'ai oublié, le bureau du conseil canadien pour aller vers le nucléaire. Alors ça, c'est vraiment un débat, à mon avis, parce qu'on pourrait sûrement avoir une société solaire, finalement, avec des énergies renouvelables. Et j'oppose ce que dit le salut climatique va passer par le nucléaire pour avoir la carboneutralité avec le nouveau livre qui s'appelle « La société de provocation, essai sur l'obscénité des riches ». C'est là que je vois un débat possible. Là, parce que, par exemple, des milliardaires... il a fait 18 vols en jet privé, ce qui équivaut à 176 tonnes de CO2, soit l'équivalent de 17 ans d'empreinte carbone pour un citoyen moyen. Et puis, une petite seconde de plus, je vais trouver à la page 207 de ce livre-là. Le 1% du 1% là, des plus fortunés du monde produit lui seul 15% de toutes les émissions de gaz à effet de serre et que les premiers 10% des émetteurs les plus importants sont responsables de près de la moitié de toutes les émissions sur la planète. Alors, justement, tu sais, c'est au lieu que les riches soient plus écologiques, ils vont nous imposer du nucléaire et que ça va nous rendre malades si, et ça va aider à faire plus de bombes atomiques. C'est un débat que je vois.
Mais pour moi, un des... Un premier principe, comme on dit en philosophie, un de mes premiers principes est celui-ci. Tout problème humain, d'origine humaine, a une solution humaine. Mm-hmm. Or, je vous donne un exemple. J'avais des professeurs d'origine allemande qui ne croyaient jamais qu'on allait unifier les deux Allemagnes, l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est. Mais, contre vent et marée, ça s'est réalisé. Or, je me suis fait un devoir de visiter ponctuellement l'ancienne Allemagne de l'Est et de voir son évolution suite à cette fusion avec l'ancienne Allemagne de l'Ouest. Mm-hmm. Chaque fois, et j'y allais deux fois par année, parfois plus. Et c'était incroyable à constater. L'ancienne Allemagne de l'Ouest a tout investi dans l'ancienne Allemagne de l'Est, de sorte que maintenant, c'est même plus moderne et plus avant-garde que l'ancienne Allemagne de l'Ouest. Eh bien, ils ont investi en quoi ? Ils ont investi dans l'infrastructure, surtout le transport public. Alors, le Québec peut se servir de tel modèle. Et si vous regardiez la différence béante entre l'ancienne Allemagne de l'Est et celle de l'Ouest, et que là, on l'a comblée, on a apporté une solution. C'est faisable, ça peut se faire. Mais il faut tout investir avec une vision bien articulé, bien défini. On veut rattraper le temps perdu pour les changements climatiques, pour le transport en public.
OK.
Voilà un exemple.
Merci. Professeur Cornette, je pensais aussi au livre « Toxic Planète » et que je mettais en opposition avec « La planète habitable, agréablement et paisiblement ». C'est là que je vois un débat possible. On pense aux perturbateurs endocriniens qui nous perturbent nos cellules. Le nucléaire qui nous rend malade. Bon, alors ça, c'est un débat possible. Un autre débat possible, c'est...
Mais je vais revenir, oui? En tant qu'Américain, je vais revenir sur cela. Toxique, on n'a pas besoin d'aller en Ukraine pour voir la toxicité. Aller au Michigan.
Oui.
Là où on a privatisé les eaux. On a privatisé l'eau potable. On prétendait que si on donnait le mandat à une entreprise privée, ça sera beaucoup plus économique. Mmh. Au contraire.
Oui.
Eux n'avaient pas les mêmes standards au point de vue de l'hygiène, au point de vue de la santé publique. Ils n'avaient qu'en vue comment réaliser un profit. De sorte que vous avez maintenant au Michigan... Vous avez des enfants empoisonnés par l'eau du robinet. Or, là, je reviens sur une vision sociodémocrate plutôt que l'idée du capitalisme, c'est Là, c'est une panacée, c'est la meilleure solution, c'est toujours plus efficace, c'est toujours plus économe. Et là, avec la concurrence, on aura de meilleurs résultats. Il faut regarder quand on parle du bien-être de monsieur et madame tout le monde, de grâce, ne mettez pas leur bien-être entre les mains de celles et ceux qui ne visent que le profit.
Mm-hmm. Ouais, il y a déjà eu un projet comme ça au Québec et on a eu la sagesse de dire non. J'espère que ça va continuer. Comme débat...
On l'a fait en Ontario. Et c'était désastreux.
Okay.
Avec le gouvernement Mike Harris.
OK. Comme débat possible, c'est l'anti-politique ou la politique ou pro-politique. Pour ceux qui sont pro-politiques et on peut s'investir dans les conseils municipaux, là, je vois deux possibilités de débat. Par exemple, moi, j'étais dans une autre ville il y a quelques années. Je pouvais dire ce que je voulais. Je faisais des propositions, des suggestions. Le maire m'écoutait. Tandis qu'ici, je suis obligé de poser une question. Alors, mine de rien, je pense que de poser une question plutôt que de faire une proposition, ça ferme l'esprit. On s'en aperçoit pas, mais bon, en tout cas, je vois qu'il y a une possibilité de débat là. Et croyez-le ou non...
Alors, je vous arrête là pour simplement pour vous dire, vous avez entièrement raison. Et c'est la raison que le principe opérateur de mon approche dialogique est celui-ci. Il n'y a qu'une mauvaise question, celle qu'on ne pose pas. Parce que je me suis rendu compte que vous avez raison. Les étudiantes et étudiants avaient une peur bleue de poser une question parce que est-ce que c'est une question stupide? Et j'aurais l'air de quoi si je posais une question stupide? Alors, oui, il y a le poids quand on exige. Donc, il faut démystifier le questionnement. Mais j'irai plus loin. Qu'est-ce qu'on peut poser comme geste pratique? Et je suis content, M. Saint-Jean, qu'on est sur les ondes de CFAQ, AK, et que votre collègue tout à côté, Claude, est une étudiante en communication. Qu'est-ce que je communique à mes étudiantes et étudiants? On a trois choix dans la vie. Le premier, c'est de lire passivement les nouvelles. Le deuxième choix, c'est d'écrire activement les nouvelles, comme journaliste. Le troisième choix, c'est de faire les nouvelles proactivement. Alors, et je vois que c'est votre mandat à tous les deux. C'est justement activement d'écrire les nouvelles. Et j'ai l'impression que vous tendez vers cette troisième option d'agir proactivement.
Oui,
faire les nouvelles.
J'avoue que vous m'avez un peu contaminé hier par votre question d'examiner les débats. C'est rendu une obsession. Jusqu'à là, j'avais 21 débats en tête. Et puis, je vois que c'est infini. Alors, par exemple, je vois qu'une association de biorégions pourrait être une alternative au pays, à la notion de pays. Alors ça pourrait être un débat aussi. Est-ce qu'on veut une biorégion ou un pays? C'est un débat possible. Et je vois un autre débat, c'est le facteur...
Quand vous posez de telles questions, M. Saint-Jean, là, la première chose qui me vient à l'esprit, mais qui est responsable? Qui est responsable du territoire? Parce que ce sont les mêmes personnes qui seront responsables que ce soit durable. Et vous savez à quel point j'ai tellement appris et j'apprécie le mouvement écologique parce que ils pensent toujours en termes des solutions durables. Mm-hmm. Qu'est-ce qui est durable? Or, dans le conflit actuel entre Israël et Hamas, mais ça fait depuis 1948 qu'il y a des conflits dans ce même coin du monde. Parce qu'on n'a jamais cherché, on a cherché que des solutions à court terme. Et ça n'en est pas une solution.
D'accord.
Il faut penser en termes de la durabilité. Qu'est-ce qui est durable? Et pourquoi y a-t-il un entrechoc entre les gens d'origine occidentale et les Premières Nations. Parce que qui est responsable du territoire? Et c'est ça qui est tellement difficile dans ces relations. Parce qu'ils sont là, ils sont en pleine croissance démographique, les Premières Nations, mais ils n'ont pas la responsabilité du territoire.
Okay.
Ils sont gérés par les gouvernements des Blancs.
Exactement. Il faudrait changer la loi des Indiens. C'est un autre débat.
Il faut les rendre responsables plutôt que de les garder à l'écart, en marge.
Combien il nous reste de temps? Trois minutes à peu près. Il faut changer la loi des mines parce que 60% du Québec est clémé. Ils peuvent faire une mine à Sherbrooke s'ils veulent. On n'a rien à dire. Alors, il faut changer la loi des mines. Et puis, il faut réduire la maladie parce qu'on met 1 milliard par semaine dans la guérison de la maladie. Pourquoi pas mettre 1 milliard par semaine?
Alors, n'allez pas plus loin. Vous soulevez tellement d'enjeux. Mais je vais vous donner un parallèle, un exemple. Croyez-le ou non, j'ai fait un atelier dialogique sur l'abus sexuel des enfants.
Oui.
Et je l'ai fait avec des pédopsychiatres, avec des pédopsychologues, avec des travailleurs sociaux. Et je l'ai fait également avec des avocats que j'ai invités. On a eu une table ronde sur les enjeux. Vous savez, jusqu'à ce qu'il y a quelques années, les Canadiens, surtout allaient en Thaïlande ou ailleurs dans l'Asie du Sud-Est, et abuser sexuellement les enfants qu'on vendait en esclavage sexuel. Mm-hmm. Or, il y a un avocat de Toronto dont le nom c'est Norman Butt. Il a initié une loi qu'un Canadien à l'étranger, du moment qu'il rentre au pays, on peut le poursuivre de façon judiciaire et le tenir responsable pour ce qu'il faisait aux enfants à l'étranger. Or, quel est le parallèle? Vous pouvez lire la page couverture des journaux aujourd'hui. Il y a une compagnie minière canadienne qui est en train de polluer l'Amazonie. Mmh. On devrait passer une loi semblable. Quand une compagnie canadienne est à l'étranger et pollue des rivières, des lacs, des sources d'eau, on doit les tenir responsables au Canada. Et c'est cette question qui reste impunie. Cette idée qu'ils ne sont pas redevables, ils ne sont pas responsables. Et qu'est-ce qu'on fait avec toutes les mines abandonnées au Québec?
Oui,
on ne les a pas tenus responsables, ils ne sont pas redevables. Il faut que ça cesse,
oui.
Qu'on les tienne redevables, qu'on les tienne responsables.
Oui, la semaine prochaine, j'interview Alain Deneau, qui a écrit Noir Canada.
Ah oui, oui, qui est à l'Université de Moncton.
Oui, et son livre Noir Canada, qui était co-écrit, a été poursuivi en diffamation par une mine d'or pour 12 millions de dollars. Finalement, il y a eu une entente, là. Le livre n'a pas été publié dans les librairies. Et puis, M. Deneau a eu de la misère à se trouver des emplois au Québec. C'est pourquoi il est rendu à Moncton. C'est beaucoup triste. Et puis, on voit le pouvoir énorme des mines. Alors, je voudrais parler un petit peu de débat au conseil municipal. Il me reste pas beaucoup de temps. Là, je vous montre un livre. Hein. Fait que moi, j'avais l'habitude, dans mon ancienne ville, lorsque j'allais au conseil municipal, de montrer un livre puis de faire une proposition. Le maire me laissait faire. Ici, à Sherbrooke, la présidente m'a interdit de montrer un livre.
Ah, vrai?
Ah oui. Fait que ça pourrait être un sujet à débat. Et puis, les aînés, au Québec, c'est 24% de la population, mais pourtant, ils sont absolument très silencieux.
Mais quel sera l'avenir de l'éducation et de la démocratie si on interdisait des livres?
Exactement, oui, c'est ça. Mais
je crois qu'on doit se laisser là-dessus parce que vous ouvrez la boîte de Pandore, M. Saint-Jacques, et c'est même le propre de vos entrevues.
Alors, je vous remercie.
Je vous en félicite même.
Je vous remercie beaucoup. Vous avez participé en me demandant de trouver des débats. Je vais en trouver beaucoup. Alors, professeur Cornette, j'apprécie beaucoup votre apport généreux et scientifique. Alors, je vous souhaite beaucoup de santé et beaucoup de joie. Et à une prochaine, peut-être. Merci.
À vous aussi, M. Saint-Jean. Merci à Claude, qui est à la régie. Et bon après-midi à vous tous chez CFAK.
Oui, c'est Emma qui est à la régie. Madame Emma.
Ah, Emma, pardon. Oui.
Voilà. Et mon nom est Claude. C'était À nous le futur qui vous revient. C'était une entrevue préenregistrée avec Norman R. Cornett, un professeur d'origine états-unienne qui est devenu canadien. Et puis, il a enseigné à McGill pendant 15 ans. Et le film d'Alanis Obem-Sawim montre sa pédagogie qu'il appelle la dialogique. Alors, je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Je vais jouer un petit morceau de musique, pas moi-même. Je vais faire interpréter quelqu'un. Une petite vie en rose, s'il vous plaît. À tantôt. Alors, bonjour, rebonjour. Ici Claude pour À nous le futur. Ça va terminer bientôt. C'est pourquoi je veux vous donner quelques nouvelles. Il y en a une dizaine. Soyez à l'écoute, soyez concentrés, parce que ça va débouler. Puis, c'est vrai que je me permets de débouler parce que je sais que je suis avec des gens nés au 21e siècle. Vous, vous êtes capable d'aller voir les archives, puis de faire jouer le curseur pour réécouter, OK? Fait que là, je vous dis que demain, vendredi, à Cercovie, il y a une pièce de théâtre qui sera très comique, qui se moque un peu du système de santé actuel. Ça s'appelle « Y a-t-il un médecin dans la salle? » Alors, c'est à 15h à Cercovie, c'est gratuit. Et puis, il y a à l'ACFAS, le 91e congrès de l'ACFAS, il va y avoir quelqu'un, Jacques Brisson, je pense, du cégep de Sherbrooke, qui va parler. Ça s'appelle « Silence, s'il vous plaît, lumière sur l'état de la pollution sonore et lumineuse à Sherbrooke ». Très intéressant, c'est une bonne idée. Et puis, vous avez certainement entendu parler de M. Couillard qui, lors de la réunion du Parti libéral du Québec en fin de semaine dernière, a dit « Il faut un retour à la rigueur, un retour à l'austérité ». Alors, moi, je me suis souvenu du livre « Le livre de la réduction de la maladie », où il y a une promotion de la prévention de la maladie et de la promotion de la santé. Alors, j'ai écrit ce courriel-là à ceux qui ont écrit le livre. « Bonjour, en fin de semaine, M. Couillard au congrès du PLQ a suggéré un retour à la rigueur. Mais si on épargnait, disons, 50 % du budget de la santé via la réduction de la maladie, alors pour faire suite au livre de la réduction de la maladie, avez-vous fait un calcul de quel investissement pour quelle mesure permettrait de réduire la maladie de temps le plus rapidement possible, accompagné d'un plan de traitement, de transfert d'argent dans la guérison vers la prévention et la promotion de la santé? » On m'a répondu: « Bonjour Claude, l'équipe du PLQ a justement reçu le livre de la réduction de la maladie. Nous sommes en train de faire la compilation des données pour arriver à votre réponse. Nous espérons avoir tout cet été. On se tient au courant. » Ce qui veut dire que peut-être l'année prochaine, en septembre prochain, puisque nous sommes à la dernière émission de À nous le futur pour l'été, là, c'est une nouvelle que je vous dis, c'est la dernière aujourd'hui. Théoriquement, ça recommence en septembre prochain si je réussis à ramasser toutes les données probantes à propos des Premières Nations. Donc, une session, c'est 16 émissions, 4 fois 4, 16. Et la deuxième session, ce sera sur la paix. Et je crois qu'il est possible que j'ai de l'aide des artistes pour la paix. Par exemple, de Pierre Jasmin, un pianiste qui est secrétaire de cette organisation de laquelle je suis devenu membre, en parenthèse. Alors, de l'éco-habitation, si vous regardez ça dans Internet, éco-habitation, j'ai reçu un beau document qui s'appelle « Rafraîchir son habitation sans la climatiser ». Et d'autre part, il y a un programme d'efficacité énergétique et de la qualité de l'air. Ça ne se donne pas tellement dans les universités encore, ces affaires-là, malheureusement. Et puis, il y a une synthèse des recommandations et moyens prioritaires associés aux 5 axes stratégiques que propose Éco-habitation. Alors, je vous dis aussi, chers étudiants, chères étudiantes, chers citoyens, citoyennes de Sherbrooke, que malheureusement, il n'y a pas beaucoup de cours qui se donnent pour nous montrer comment arriver à la paix, c'est-à-dire plus concrètement, comment faire la conversion de l'industrie militaire à des fins civiles. Heureusement, il y a un ingénieur industriel américain qui s'appelle Seymour Melman qui a écrit plusieurs livres sur le sujet. Par exemple, il y en a un qui s'appelle Pentagon Capitalism, ou bien Profit Without Production. C'est un peu satirique, tu sais. Il montre que les industries américaines font du profit sans produire quelque chose de valable. C'est un peu ce que disait le professeur Cornet tout à l'heure avec la privation de l'eau. Ça donnait de l'eau pas bonne à boire. Alors, Seymour Melman, je vous conseille de le lire tant que vous pouvez, là, d'ici aux prochaines émissions de À nous le futur, vers la prochaine session. Et puis, je voudrais aussi vous parler du livre « Réhabiter le monde pour une politique des biorégions » d'Agnès Sinaï. J'ai hâte de lire ça, je ne l'ai pas lu encore, il s'en vient. Chez les artistes pour la paix, si vous allez dans leur site Internet, essayez de voir l'article « Crise de la mauvaise gestion des déchets radioactifs dans le bassin versant de la rivière des Outaouais ». C'est le chef Lance Raymond et le docteur Gordon Edwards qui ont écrit ça. Donc, quelqu'un des Premières Nations et un scientifique, M. Edwards, qui ont collaboré pour écrire ça. Et dans les médias, il y en a un qui s'appelle « Pour la suite du monde », il y a un article du 22 mai 2024. Ça s'intitule « 40 organisations lancent un appel à la démocratisation des décisions et à la collaboration du gouvernement Legault. La société civile demande de participer aux discussions sur la transition écologique et sociale. » Et puis, un peu dans la même veine, il y a plus de 300 scientifiques qui dénoncent dans une tribune une stratégie climaticide de Total Energy. Vous savez que Total Energy a donné une subvention de 2 millions de dollars à l'Université de Sherbrooke que les étudiants étaient contre, mais ça n'a rien donné, ils l'ont eu pareil. Et puis, Total Energy fait semblant d'être écologique, mais c'est seulement 2 % de sa production qui est viable. D'ailleurs, Alain Deneau, je vous avais dit que je l'interviewerais. Ça n'a pas fonctionné, malheureusement. Il était à Harford hier et avant-hier. Aujourd'hui, il retourne à Moncton où il enseigne. Je vais peut-être faire une entrevue préenregistrée. Je ne peux pas vous dire quand, là, mais certainement aussi un article, soit dans le journal d'Ascot qui s'appelle Regard ou le journal Entrée libre. Et peut-être ici Climatoscope. Fait que vous savez que M. Guterres, le secrétaire des Nations Unies, a écrit dans Bulletin des Nations Unies là, que je reçois et auquel je vous suggère de vous abonner. Ça s'appelle « Le moment est venu de libérer la puissance de paix de l'Afrique ». Très bon article. Et à Antigua et Barbuda, les petits États insulaires se réunissent pour tracer la voie d'un avenir résilient parce que ce sont eux qui sont d'abord inondés avant nous par les changements climatiques. Alors, c'est terminé. Adios. À la prochaine, peut-être, d'À nous le futur, en septembre prochain. Je vous souhaite un très bel été, un bon repos, une bonne santé, beaucoup de joie. Amusez-vous entre vous et avec vous-même. Et puis, soutenons le campement palestinien pour qu'on ait une paix israélo-palestinienne tout de suite. Merci. Bonjour. Ici Claude pour À nous le futur.